RFI, 7h à Paris, 8h à Beyrouth, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Marion Cazeneuve.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Après l'assassinat du chef du Hezbollah, l'armée israélienne poursuit ses frappes au Liban.
En particulier dans l'Est, avec des dizaines de raids ce matin. Le parti chiite, lui, malgré la mort d'Hassan Nasrallah, poursuit ses opérations. On sera avec notre correspondant à Beyrouth en début de journal. On sera également en Côte d'Ivoire où la diaspora libanaise est en deuil. Dans ce journal également, les législatives en Autriche. Aujourd'hui, l'extrême droite poursuit sa poussée et pourrait arriver en tête du scrutin. Au Royaume-Uni, thérapie de groupe pour les conservateurs. Ils entament un congrès où ils devront tirer les conséquences de leur défaite historique lors des législatives de juillet. Et puis en Amérique latine, de plus en plus de pays cherchent des solutions face au réchauffement climatique et à ses conséquences. Certains se tournent par exemple vers les crédits carbone.
Au Proche et au Moyen-Orient, le choc après la mort d'Hassan Nasrallah.
Le mouvement chiite pro-iranien a confirmé la mort de son chef hier. Il a été tué dans une frappe israélienne vendredi. Depuis lundi, l'armée israélienne pilonne des positions du Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans le sud, dans l'est. Hier, 33 personnes ont été tuées, près de 200 autres blessées, selon le ministère de la Santé libanais. Les autorités affirment aussi que le nombre de déplacés dans ce conflit dépasse le million de personnes. On retrouve à Beyrouth notre correspondant Paul Khalife. Paul, les frappes israéliennes se poursuivent ce matin encore.
Oui, Marion, l'aviation a repris à l'aube ces violents bombardements, ciblant en particulier la région de Baalbek dans l'est du pays avec des dizaines de raids. Trois localités près de la ville côtière de Tyr, dans le sud du Liban, ont également été visées. Peu après minuit, les avions ont mené quatre raids dans la région de Chouaïfat, à l'entrée sud de Beyrouth, non loin de l'aéroport. Quelques heures plus tôt, les Israéliens avaient pris le contrôle des transmissions de la tour de contrôle de l'aéroport, menaçant de recourir à la force pour empêcher un avion iranien d'atterrir. Les autorités libanaises ont demandé à l'appareil de rebrousser chemin. En Syrie, des avions ont pilonné des positions de groupes pro-iraniens dans l'est du pays, près de la frontière avec l'Irak. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 12 morts.
Et on vous retrouve, Paul Khalife, dans quelques instants dans ce journal pour parler des suites que fait le Hezbollah à présent. Mais d'abord, un point sur les réactions internationales. Après la mort d'Hassan Nasrallah, l'Iran réclame une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Téhéran, allié du Hezbollah, promet aussi la destruction de l'État d'Israël. La Russie condamne fermement cet assassinat. L'Allemagne, de son côté, craint un risque de déstabilisation qui n'est pas du tout dans l'intérêt d'Israël. Le gouvernement israélien, au contraire, se félicite de la mort d'Hassan Nasrallah par la voix de son premier ministre Benjamin Netanyahou. À Jérusalem, Michel Paul.
Israël se trouve à un tournant historique dans la lutte contre ses ennemis, affirme Benjamin Netanyahou dans une première déclaration après l'élimination de Hassan Nasrallah.
Nous avons réglé nos comptes avec celui qui est responsable du meurtre d'innombrables Israéliens et de nombreux ressortissants étrangers, parmi eux des centaines d'Américains et des dizaines de Français.
Le premier ministre israélien lance également une sévère mise en garde adressée directement à l'Iran.
Au régime des ayatollahs, je dis que ceux qui nous frappent, nous les frapperons. Il n'y a pas d'endroit en Iran ou au Proche-Orient où ils ne seront pas atteints par le bras d'Israël.
Pour Netanyahou, la mort de Nasrallah va permettre à Israël d'atteindre ses objectifs de guerre.
Nous gagnons. Nous sommes déterminés à frapper nos ennemis, permettre aux déplacés de rentrer chez eux et de ramener tous nos otages. Nous ne les oublions pas un instant.
Si quelqu'un vient pour te tuer, lève-toi et tue-le en premier, ajoute encore Benjamin Netanyahou. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Et nous sommes toujours en ligne avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalife. Paul, le commandement politique et militaire du Hezbollah a pratiquement été décapité par les Israéliens. Et malgré ce vide au sommet, le parti chiite continue de fonctionner.
Oui, les unités militaires du Hezbollah restent effectivement opérationnelles. Samedi, dans la journée, elles ont revendiqué 6 attaques contre Israël. Dans la nuit, le Hezbollah a lancé un escadron de drones vers la ville côtière de Naharaïa, en Galilée et a tiré une roquette de moyenne portée sur des colonies israéliennes dans la région de Jérusalem.
Paul Khalife, correspondant de RFI à Beyrouth. La mort d'Hassan Nasrallah provoque la stupeur forcément chez les Libanais dans leur pays, mais aussi dans la diaspora en Côte d'Ivoire, où cette diaspora est importante. La communauté chiite est en deuil de celui qu'elle considérait comme un résistant et un héros de la guerre Liban-Israël de 2006. Reportage à Abidjan de notre correspondant Benoît Almeras.
Ce deuil, il se ressent particulièrement dans le quartier de Markori résidentiel. C'est là que se dressent les deux minarets et le dôme cuivré de la mosquée chiite Al-Mahdi. D'habitude, le bâtiment est animé, mais cet après-midi, ses portes closes. La faute à la mort d'Hassan Nasrallah, d'après les gardiens. Seuls quelques ados acceptent de l'évoquer comme Mehdi, qui a grandi en Côte d'Ivoire.
Ça fait tristesse, ça fait mal. Bon, ma mère aussi, toute la famille est triste. Ça fait du mal. Parce que c'est grâce à lui, le Liban a été libéré en 2006. C'est grâce à lui.
En 2006, Mehdi et ses amis n'étaient pas nés. Mais dans les cafés à chicha du coin, leurs aînés barbus, tatoués, refusent de parler. D'autres commerces sont restés fermés après le décès du chef du Hezbollah. Rien de surprenant, selon ce chef d'entreprise.
Il y a la plupart même de mes amis, ils ne sont pas partis au travail aujourd'hui. Ils n'ont pas parti au travail totalement à cause de cette histoire. C'est trop choquant, ça a touché beaucoup de gens.
La mosquée finit par ouvrir ses grilles pour la prière du soir. Certains fidèles émus se prennent dans leurs bras. Hors micro, les plus anciens s'inquiètent pour leurs familles lointaines qui ont dû fuir les bombardements au sud Liban. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Et on revient largement toute la matinée sur RFI sur la mort d'Hassan Nasrallah et ses conséquences, notamment dans deux éditions spéciales avec nos invités, nos reporters sur place. Première édition spéciale dans une heure avec Julien Coquel-Rohem après le journal de 6 heures, temps universel. Au Népal, à présent, au moins 101 morts et 64 disparus dans des inondations et des glissements de terrain. Des catastrophes provoquées par des pluies diluviennes, notamment dans la capitale, Katmandou. Ce sont les pluies les plus intenses depuis au moins 50 ans, selon les autorités qui préviennent que le bilan pourrait encore s'alourdir. L'ouragan Helene aux États-Unis a fait au moins 63 morts, selon le dernier bilan des autorités. L'ouragan a provoqué d'importantes inondations ces derniers jours, avec de fortes rafales de vent dans le sud-est, en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord et du Sud, ainsi qu'en Virginie. Des millions d'Américains sont aujourd'hui toujours privés d'électricité. RFI, 7h08, à Vienne, les bureaux de vote viennent d'ouvrir en Autriche. Plus de 6 millions d'électeurs se rendent aux urnes pour les législatives. Le parti d'extrême droite, le FPE, emmené par Herbert Kickl, a déjà enregistré une victoire lors des dernières européennes et il est donné favori pour ce scrutin. Son arrivée en tête serait une première, même si les résultats s'annoncent serrés et que le futur chancelier devra forcément former une coalition pour gouverner. Patrick Moreau est docteur en histoire et en sciences politiques, chercheur au CNRS et spécialiste entre autres de l'extrême droite autrichienne. Selon lui, malgré le succès annoncé de l'extrême droite, cette formation ne souhaite pas le pouvoir, en tout cas pas pour l'instant.
Je pense que c'est le plan secret en fait de Kickl. Kickl, à la limite, sait très bien qu'une grande coalition avec trois partenaires qui se dessinent peut-être à l'horizon serait par nature tellement instable que les Autrichiens, il y a quand même l'exemple allemand où ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas très bien fonctionné. La plupart des Autrichiens pensent qu'effectivement, cette coalition n'aurait pas vraiment d'avenir, n'aurait pas de stabilité politique. Et Kickl a tout à gagner à attendre en définitive, parce que si cette grande coalition se casse la gueule rapidement, ce qui est du domaine du possible, eh ben ma foi, ça lui permettrait certainement de progresser en termes électoraux et de se rapprocher de la majorité. Donc c'est une stratégie effectivement qui peut être portante, c'est quand même risqué évidemment, mais à mon avis, d'après mes contacts que je peux avoir dans le FPE, c'est une stratégie qui a été réellement analysée.
Patrick Moreau, spécialiste de l'extrême droite autrichienne, propos recueillis par Romain Lemaresquier. Actuellement, l'Autriche est dirigée par une coalition formée d'écologistes et de conservateurs, avec à sa tête Frank Nehammer. Les conservateurs britanniques, eux, cherchent leur futur chef. Après une défaite historique lors des législatives de juillet, qui ont vu le retour des travaillistes au pouvoir, les Tories se retrouvent à partir d'aujourd'hui en congrès. Ça se passe à Birmingham, en Angleterre, et ils devront tirer les leçons de cette défaite cuisante, ainsi que trouver, Émile Vin, des solutions pour reconquérir les électeurs. C'est le premier rassemblement depuis que les élus et les militants conservateurs ont essuyé la pire défaite de leur histoire et perdu plus de 200 sièges à la Chambre des communes. Pendant les 4 jours de débats et de discours à Birmingham, les Tories vont tenter de tirer les leçons du naufrage électoral et de déterminer leur nouvelle direction politique pour les 5 prochaines années en tant que premier parti de l'opposition. Mais le principal rôle de ce congrès 2024, ce sera de départager les 4 candidats à la tête du parti. L'ex-premier ministre Rishi Sunak avait annoncé qu'il ne dirigerait plus les Tories au lendemain de la défaite électorale. Lui ne fera qu'une brève apparition à Birmingham. Lundi et mardi, des tables rondes sont organisées entre les 4 aspirants successeurs, tous anciens ministres, intitulés « Apprenez à connaître vos candidats » avant l'enchaînement de discours individuels mercredi sur la scène principale. L'objectif pour chacun, mettre en avant ses projets, sa vision, convaincre les adhérents et surtout éviter les faux pas avant un vote des députés pour désigner les 2 finalistes dans 10 jours. Emeline Vin, Londres, RFI.
En France, le Premier ministre Michel Barnier peaufine son discours de politique générale, exercice très attendu, traditionnel lors de l'arrivée d'un nouveau locataire à Matignon, et surtout assez périlleux, prononcé mardi devant le Parlement, où l'Assemblée nationale est éclatée en 3 blocs, sans majorité absolue, avec des risques de censure contre ce nouveau gouvernement. Au même moment, d'ailleurs, plusieurs syndicats appellent à des manifestations et des grèves partout dans le pays pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites et l'augmentation des salaires. Au Venezuela, manifestation de l'opposition pour exiger le départ du président Nicolas Maduro, dont la réélection il y a 2 mois est contestée. Et des petites manifestations de quartier ont été organisées, manifestations très locales, plutôt discrètes. La mobilisation qui avait suivi le scrutin il y a 2 mois avait été brutalement réprimée. Aujourd'hui, la chef de l'opposition, qui n'avait pas été autorisée à se présenter, vit dans la clandestinité. Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition, est quant à lui en exil en Espagne. On reste en Amérique du Sud qui subit en ce moment une période d'intense sécheresse avec de violents incendies, énième menace sur l'environnement dans le continent qui investit de plus en plus dans la transition écologique. Derniers exemples en date, 2 annonces. Coup sur coup, au Brésil d'abord, une vente record de crédit carbone afin de limiter la déforestation. Et en Colombie, Simon Rosé, la mise en place d'un programme de 40 milliards de dollars.
Plus de 160 millions d'euros en crédit carbone, c'est un record. Les acheteurs, une coalition d'acteurs privés et d'États qui entendent ainsi compenser leurs émissions de gaz à effet de serre en versant cette somme à l'État brésilien du Pará, le plus déforesté du pays. Avec cet argent, il entretiendra mieux sa forêt, notamment en luttant contre le déboisement. Si le montant est inédit par son ampleur, ce type d'accord se multiplie à l'insistance des pays développés qui voient là une manière d'inciter le secteur privé à participer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. L'essor du marché des crédits carbone a toutefois entraîné plusieurs dérives. Celui-ci sera ainsi particulièrement surveillé pour être sûr que le droit à polluer acquis par les acheteurs est réellement compensé par des actions en Amazonie. L'Amazonie au centre d'un autre programme colombien cette fois. La somme est bien plus conséquente, 35 milliards d'euros pour un portefeuille d'investissement au vaste périmètre. Écotourisme, transition énergétique, restauration des écosystèmes, avec pour objectif avoué pour la ministre colombienne de l'Environnement de faire de son pays un modèle. Susana Muhammad, qui sera par ailleurs la présidente de la COP dédiée à la biodiversité qui débute dans 1 mois à Cali.
Simon Rosé. Les meilleurs cyclistes du monde à Zurich en ce moment aux Mondiaux du cyclisme. Dernière épreuve chez les hommes aujourd'hui. 3 grands favoris, Tadej Pogacar le Slovène, Remco Evenepoel le Belge et Mathieu Van Der Poel le Néerlandais tenant du titre. Les Français, eux aussi espèrent briller comme par exemple Valentin Madouas, médaillé d'argent cet été au JO. Il aime ses courses d'un jour longues, difficiles, même si le parcours s'annonce cette année particulièrement corsé.
Ça fait peur après. On est là pour faire du vélo et la difficulté sera la même pour tous. C'est un parcours qui va être très usant, très difficile, avec de nombreuses difficultés, même si on a forcément une principale. C'est un parcours qui répond à un coureur très complet, bon rouleur, un bon grimpeur et un bon technicien, parce que le parcours est technique. C'est les courses que j'aime, surtout voilà, les courses de championnat, les courses en oreillette, les courses en circuit. On a une très belle équipe qui performe beaucoup sur les courses en circuit. Je suis vraiment voilà, très motivé avec cette longue course qui va être très usante, très dure. On va voir et on va faire une belle course.
Valentin Madouas avec Thomas de Saint-Léger. Départ de la course à 8h30, temps universel. RFI Matin, la suite avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Marion Cazanov, à tout à l'heure. Dimanche 29 septembre, bienvenue à vous, RFI Matin, 3 heures d'information. Au lendemain d'un tournant historique au Moyen-Orient, la mort annoncée par Israël d'Hassan Nasrallah dans les frappes sur le Hezbollah dans la banlieue sud de Beyrouth. Un choc pour le pays et la région, une annonce accueillie par de la colère, de l'émotion. et même de l'incrédulité hier dans la capitale libanaise.
Je prie pour qu'il apparaisse, qu'il parle et nous dise. Comme je vous l'avais promis, nous allons prier ensemble à Jérusalem. C'est notre père, notre honneur, notre force. Il ne peut pas partir comme ça.
Reportage d'Abla Junaidi et Jadel Khoury à Beyrouth dans le journal de 6h, temps universel. Que va faire le Hezbollah désormais? Jusqu'où ira Israël? L'Iran va-t-il s'impliquer directement dans le conflit? Et quid de la communauté internationale qui ne semble plus avoir de prise sur Benjamin Netanyahou? On se pose toutes ces questions dans deux éditions spéciales ce matin. Après les journaux de 6h et 7h, temps universel, la situation au Liban que vous suivez aussi dans notre direct en ligne sur notre site RFI.fr. Au sommaire également ce matin, et sur une toute autre note, l'annonce du lauréat du prix RFI Théâtre. Comme chaque année, Pascal Paradou est avec nous à 6h, temps universel. Nous sommes ensemble pour les 3 prochaines heures. Et pour commencer, cap sur le Japon avec une illustration de plus du réchauffement climatique aujourd'hui. Une conséquence on ne peut plus ancrer dans le quotidien. Puisqu'elle concerne l'alimentation. L'archipel connaît en ce moment une pénurie sans précédent de riz, aliment de base des Japonais, la faute aux mauvaises récoltes successives dues à la fois à des étés caniculaires et à la multiplication des précipitations exceptionnelles à cause du réchauffement des océans. La pénurie est telle qu'à Tokyo ou ailleurs, la plupart des magasins mettent en place un rationnement 5 kg de riz par client et pas plus. À Tokyo, Bruno Duval.
La mine défaite, ce gérant d'un supermarché du centre de la capitale contemple la section de son entrepôt où sont stockés les sacs de riz.
Vous le voyez, il n'y a vraiment plus grand-chose. C'est terrible une telle pénurie. Je n'avais jamais vécu cela. Ces sacs de 10 kilos, par exemple, je les aurais tous vendus dans une semaine environ. Et mes fournisseurs me disent que je ne serai sans doute pas livré avant fin octobre.
Parmi les clients, c'est l'effarement, voire parfois un certain affolement.
Je n'étais pas plus inquiète que cela, mais quand j'ai vu les critos priant les clients de ne pas acheter plus de 5 kilos de riz, j'ai réalisé qu'effectivement, notre pays avait un gros problème.
J'ai bien fait de me dépêcher de venir en acheter, car les rayons se vident à vue d'œil. Et le pire, c'est qu'il paraît qu'on ne peut quasiment plus en trouver en ligne, sur Amazon.com par exemple, et Uber Eats, c'est pareil, rien, plus un seul kilo de riz disponible.
J'essaye de varier mon alimentation, de manger des pâtes, des vermicelles, des nouilles de sarrasin, on n'a pas le choix.
Quand l'alerte oméga séisme a été lancée, beaucoup de gens ont fait des provisions de riz craignant d'en manquer. Et depuis, ce n'est vraiment pas facile d'en trouver.
Par-dessus le marché, le prix du riz s'est envolé. C'est la double peine et ça ne fait pas mon affaire avec ma petite retraite.
En effet, par rapport à l'été dernier, le riz a vu son prix augmenter de 26%. C'est le résultat de la loi de l'offre et de la demande, ce qui est rare et cher, mais aussi d'une politique délibérée des autorités, qui, ces 50 dernières années, ont réduit les surfaces agricoles dédiées à la riziculture, pour éviter une surproduction, donc la chute des cours, d'où de moindres revenus pour les agriculteurs et le mécontentement dans les campagnes, que la majorité au pouvoir paierait au prix fort sur le plan électoral. Dans la même logique, le gouvernement refuse de mettre sur le marché une partie des 900 000 tonnes de riz qui s'entassent dans les entrepôts du ministère de l'Agriculture en prévision de situations d'urgence, des catastrophes naturelles majeures par exemple. Un choix que cet expert justifie.
900 000 tonnes, c'est 15% de la quantité de riz consommée chaque année par les Japonais. Commercialiser ne serait-ce que le tiers ou le quart de ces stocks atténuerait la pénurie. Oui, mais une telle envolée de l'offre ferait chuter le cours de 15 à 20% et les agriculteurs seraient vent debout.
Or, c'était d'autant moins envisageable politiquement que ces dernières semaines, le Japon a été en campagne électorale. En vue de la désignation vendredi du nouveau président du parti au pouvoir, qui, mardi, remplacera le Premier ministre Fumio Kishida à la tête du gouvernement. Bruno Duval, Tokyo, RFI.
Au Japon, le réchauffement climatique à l'origine de la pénurie de riz, notre reportage international à retrouver sur RFI.fr.
RFI à Paris, 89 FM.
L'actualité politique en France, chaque dimanche, écoute projecteur ce matin sur celui qui n'aura tenu que 8 mois à Matignon, mais le désormais ex-premier ministre le plus jeune de la Ve République a su se faire un nom. Bonjour Charlotte Urien-Thomaca.
Bonjour Julien.
C'est donc un homme pressé et avec cette dissolution, Gabriel Attal s'est émancipé ?
Oui, depuis le 9 juin dernier, date de la dissolution, l'ancien Premier ministre est un électron libre. En janvier dernier, lorsqu'il a succédé à Elisabeth Borne, il était celui que l'on n'attendait pas pour le poste. Le président avait choisi dans ses rangs un pur produit du macronisme, qui ne ratait pas une occasion d'afficher sa loyauté, et c'est désormais en affranchi qu'il a quitté la rue de Varennes. Lors de la passation de pouvoir avec son successeur, Gabriel Attal a bien insisté pour dire que 8 mois, c'était trop court, et ne cachait pas sa frustration, tout en avertissant, je cite, que la liberté l'animera à l'avenir.
Alors, quelle va être la suite pour l'ancien Premier ministre ?
Eh bien, réélu député des Hauts-de-Seine après s'être investi lourdement dans la campagne pour les législatives anticipées comme chef de la majorité, Gabriel Attal est désormais président du groupe Ensemble pour la République, deuxième groupe à l'Assemblée. Il vise également la présidence du parti Renaissance, mais il n'est pas seul à vouloir en prendre la tête. Ses rivaux s'appellent Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Réponse donc au congrès du parti qui est prévu en octobre ou en novembre, pas de date arrêtée pour le moment. En attendant, il est sur le terrain, il enchaîne les rentrées des instances locales de Renaissance et place ses billes auprès des députés.
Après avoir été encensé en Macronie, il suscite désormais l'inimitié même au sein de son propre camp.
Oui, affranchi de la tutelle présidentielle, Gabriel Attal veut désormais tracer sa route, mais sans s'absoudre de l'héritage. Son élection à la tête des députés a laissé des traces. Certains lui reprochent d'avoir été brutal quand ses soutiens répliquent qu'il n'a fait qu'utiliser son excellente cote interne. Sa prédécesseure, Elisabeth Borne, a fait savoir qu'il n'était pas d'usage d'être président de groupe en même temps qu'on dirige le parti. Gabriel Attal se prépare surtout à une confrontation avec son principal rival, Gérald Darmanin. Le député du Nord, de son côté, prépare sa rentrée politique dans son fief de Tourcoing et il est déjà prêt à se lancer dans la course pour 2027. Lui qui n'a jamais vraiment digéré de voir Matignon lui échapper au profit de Gabriel Attal, les rôles sont désormais inversés avec un ancien Premier ministre émancipé de la tutelle présidentielle quand Gérald Darmanin joue la fidélité totale à l'Élysée. Ce qui est sûr, c'est que Gabriel Attal a une réputation de fonceur et qu'il vient d'affirmer au travers d'une grande interview à nos confrères du Point, je cite, qu'il avait une grande histoire à écrire avec les Français.
Charlotte Turien-Tomaca, l'actualité politique chaque dimanche sur RFI. Merci beaucoup. Et dans notre livre international ce matin, on prend la direction du Mexique à 2 jours de l'investiture de la première présidente de l'histoire du pays. Claudia Sheinbaum prendra ses fonctions mardi. Elle prend la succession du très populaire AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum qui est aussi un personnage central du nouveau livre d'Hélène Combes, directrice de recherche au CNRS. L'ouvrage « De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico » où la spécialiste du pays étudie la naissance du mouvement Morena, de la première grande mobilisation jusqu'à la victoire d'AMLO en 2018. Hélène Combes, au micro d'Arim Lipold.
Hélène Combes, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous vous penchez sur la mobilisation des militants de gauche à Mexico, une mobilisation qui débouche en 2018 sur l'élection de Andrés Manuel López Obrador à la présidence mexicaine. Alors vous, vous étiez en immersion au sein du mouvement qui a porté AMLO au pouvoir. En quelques mots, Hélène Combes, quelle est la clé de son succès ?
Alors, ce que je montre dans mon livre, hein, c'est l'histoire d'une victoire, mais une victoire qui a pris du temps, en fait, 12 ans dans mon ouvrage, hein, parce que je suis en fait 8 personnages, 4 cadres politiques, dont une écrivaine et 4 militants de quartier populaire sur toute cette période. Et je montre en fait comment c'est un long travail d'organisation qui a été fait à l'échelle de quartier populaire. Et donc, on ne peut comprendre finalement le succès de ces mobilisations, puis de la transformation en parti, puis de la victoire à l'élection présidentielle qui s'appuie en grande partie sur Mexico, qui concentre une partie de l'électorat, sans revenir à une histoire très spécifique et différente de quartier.
Vous avez commencé votre enquête en 2006. Alors aujourd'hui, 18 ans plus tard, est-ce que vous diriez que la faveur de la mobilisation pro-Morena reste intact ou il y a quelque chose qui a changé ?
Déjà, Morena a remporté l'élection présidentielle du 2 juin avec presque 60% des voix, hein, et donc a vu accéder au poste suprême au Mexique une femme, Claudia Sheinbaum, qui est l'un de mes personnages. Hein. J'ai commencé à suivre Claudia Sheinbaum dès 2006. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. J'ai suivi des mobilisations dont elle a été la principale artisane, hein, notamment ce qu'on appelle appelée la mobilisation des Adelitas, qui est une mobilisation qui a été organisée contre la privatisation de la compagnie Pemex et dont elle était à la tête. C'était des brigades de femmes hein, qui ont d'abord empêché le vote de la loi vue comme une privatisation et puis ensuite ont réalisé tout un travail territorial. Et donc Claudia Sheinbaum était la figure de proue de cette mobilisation. Donc il y a quand même une très forte continuité de mon point de vue.
Alors cette mobilisation tient beaucoup au charisme, en tout cas au début, mais je pense que peut-être encore aujourd'hui, du président sortant AMLO, qui reste donc très populaire à la fin de son mandat, qui s'achève dans quelques jours. Comment peut-on expliquer ce charisme ?
Alors moi justement, je prends complètement le contre-pied de ça dans mon ouvrage. Moi j'ai suivi pendant des années le travail justement d'organisation qui a été fait par López Obrador de manière extrêmement incertaine. Il y a des moments où c'était plus du tout couvert par les médias. Je suis partie en tournée avec lui. Il y avait quasiment plus de journalistes qui suivaient son action. Et moi, ce que je voyais était quelque chose de très différent du charisme. C'était un travail très systématique, un travail de quadrillage territorial. Il a sillonné plusieurs fois le pays en allant dans chacune des municipalités du pays. Il a construit des bases de soutien. On ne peut pas comprendre finalement la construction d'un nouveau parti qui a été Morena, la place qu'a occupé López Obrador, sans ce travail qui était en fait très besogneux.
Vous avez parlé de Claudia Sheinbaum que vous avez suivi pendant des années. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu sa personnalité ?
C'est quelqu'un d'extrêmement concis, précis. Par exemple, en avril 2023, je l'ai suivi dans la visite de centres communautaires qu'elle a créé, 300 centres communautaires à l'échelle de Mexico, et où en fait elle allait rencontrer les usagers, donc très à l'écoute. Le responsable du programme me disait c'est très intéressant parce que finalement elle vient pas pour faire des discours, c'est ce qui est un peu le style de López Obrador, elle vient pour écouter les gens. Et donc j'ai passé l'après-midi avec elle et durant cet après-midi elle a parlé avec des jeunes qui avaient été déscolarisés, des mères de famille, des jeunes enfants, et donc avec cette attitude d'écoute, de comprendre hein, la situation de ses administrés. Donc un style quand même très différent de López Obrador.
Merci beaucoup Hélène Combe.
Hélène Combe, directrice de recherche au CNRS avec Arim Lipold pour son livre De la rue à la présidence, foyer contestataire à Mexico, publié par CNRS Éditions. Et chaque dimanche, l'atelier des médias est aussi dans RFI Matin. Bonjour Steven Jambeau.
Bonjour Julien.
Cette semaine, vous mettez à l'honneur un nouveau média en ligne consacré à la transition écologique.
Ah oui, vous allez me dire encore un média qui parle d'écologie. Après Reporter, Vers le Média ou encore Climax, il y a un petit nouveau lancé en France en douceur il y a quelques mois. Il s'appelle 2050 Now, en bon français 2050 Maintenant. J'ai rencontré jeudi sa cofondatrice et rédactrice en chef, Aude Baron.
Notre enjeu, c'est qu'en fait, on aide les gens à comprendre, on partage des solutions et on met en avant des personnes qui font. C'est-à-dire qu'on se veut très concret. En gros, nous, notre positionnement, c'est d'être complémentaire par rapport à de très nombreux médias qui existent et qui, eux, sont sur la dénonciation, qui est nécessaire. Mais une fois qu'on a dénoncé, une fois qu'on a pu avoir cet électrochoc, on ne sait pas forcément quoi faire. Et c'est là où nous, on arrive pour, un, exposer des solutions, et si ce n'est pas des solutions, proposer des inspirations pour mettre chacun et chacune en mouvement, parce qu'en fait, on a identifié lors de toute la réflexion qui a mené à la création de ce média, que beaucoup de personnes, qu'on peut appeler une majorité silencieuse, a un énorme potentiel de responsabilité écologique, mais reste passif ou passive, faute de savoir par où commencer. Parce que d'une part, ces personnes peuvent être, disent-elles, on va dire, agacées par les discours des militants, des activistes qui les, elles, jugent culpabilisants, culpabilisantes, et d'autre part, par des initiatives qui peuvent être jugées comme du greenwashing. Et donc, prises dans cet étau, ces personnes se disent, finalement, je vais rien faire. Alors que le potentiel existe.
Steven, on l'a compris dans les propos d'Aude Baron, 2050 Now mise sur les solutions.
Et on le sait, Julien, en matière d'écologie, les solutions sont certes liées au comportement de l'être humain lambda, mais plus encore aux entreprises et à ce que les politiques leur demandent, ou ne leur demandent pas d'ailleurs. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite à propos de 2050 Now. C'est un média qui est adossé au groupe Les Échos, Le Parisien, propriété d'un autre groupe, le géant du luxe LVMH, dirigé par un Français, le richissime Bernard Arnault. Si Aude Baron dit ne pas pas avoir rencontré de soucis sur l'indépendance éditoriale de son média. Pour le moment, elle sait qu'il lui faudra être vigilante.
2050 Now, le média du groupe Les Échos, le Parisien, dédié à la transition verte. C'est à écouter dans l'atelier des médias à 11h10, temps universel, sur RFI bien sûr.
Et dès maintenant, en podcast du lien, nos fidèles auditeurs le savent.
Merci Steven Jambeau.
Merci Julien.
RFI à Bilbao, 97.5 FM. Bissau, 94 FM.